L'essentiel de cette édition est consacré à l'hommage rendu dans tout le pays à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité avant-hier devant le collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine pour avoir utilisé des caricatures du prophète Mahomet dans un cours dédié à la notion de laïcité. Récit du rassemblement parisien avec Adrien Palluet, témoignage d'une enseignante parent d'élèves, de nombreux hommes politiques ont pris part à ces manifestations de soutien. Le Premier ministre Jean Castex poste sur Twitter le message suivant « Nous n'avons pas peur, vous ne vous diviserez pas ». Invité de cette édition, le philosophe du politique Vincent Payon, ancien ministre de l'Éducation nationale. Et puis à la fin de ce journal, les enjeux des élections présidentielles en Bolivie avec Olivier Poujade. Non au totalitarisme de la pensée, il fait sombre au pays des Lumières. Je suis musulman, je suis contre la violence, je suis pour la liberté d'expression. Quelques messages glanés ici et là sur les images qui nous parviennent des rassemblements nourris dans tout le pays. Sandra, elle, était à Paris, place de la République.
Alors étant enseignante et maman d'une collégienne et d'une lycéenne, j'ai voulu simplement affirmer notre droit à la liberté d'expression et surtout à la transmission. Et partager ça avec mes enfants afin qu'elles voient que vu toutes les personnes présentes aujourd'hui, tout ça, on est très très fort en face de ça et on ne se laissera pas faire. J'ai déjà ressenti presque une autocensure, on ne peut pas le nier. On réfléchit toujours à deux fois avant de mettre en place certaines situations dans notre classe. On se pose souvent la question, donc oui, on ressent une certaine censure. On se sent relativement seul, puisque lorsque les faits sont remontés, on sent qu'il y a beaucoup d'échelons à gravir afin que ça remonte. On ressent pas toujours du soutien et on sent surtout que souvent c'est à nous qu'on fait ressentir que les choses n'ont peut-être pas été bien évoquées, bien transmises, bien présentées et que c'est peut-être à nous de se poser la question alors qu'en fait on ne devrait pas se la poser.
Bonsoir Adrien Palluet.
Bonsoir.
Adrien, vous avez assisté au rassemblement parisien. Que s'est-il passé exactement en place de la République ?
Eh bien, l'ambiance était assez calme ici sur la place de la République. Il y avait beaucoup de monde dès 15h et les premières prises de parole avec un hommage qui a été rendu à Samuel Paty par une minute de silence suivi d'une Marseillaise spontanée et assez solennelle et soutenue par de longs applaudissements. Ensuite, les représentants syndicaux et associatifs ont pris la parole tour à tour avec des mots de tristesse, de colère face à la tragédie de vendredi, mais aussi des discours d'unité et de lutte face à, je cite, l'obscurantisme. Il faut refuser la complaisance, ont répété les représentants de SOS Racisme et des syndicats de l'enseignement. Même discours parmi la foule, surtout composée d'anonymes venus ici en marque de soutien. C'était important d'impliquer mes enfants, me confiait un père de famille, pour montrer qu'on est unis et pour honorer ce professeur. Assez peu de pancartes ou de slogans, on pouvait tout de même voir quelques exemplaires de Charlie Hebdo brandis au milieu de la place de la République. Pour les slogans, on pouvait lire « Ne les laissons pas nous diviser ». Plus que jamais, vive notre école publique, notre école à tous. L'homme qui portait cette pancarte est professeur d'histoire-géographie et soulignait l'importance d'enseigner le fait religieux à l'école pour que, je cite, on continue d'avoir la liberté de croire ou non.
Merci à vous.
Malgré cette volonté d'unité, beaucoup de personnes m'ont aussi fait part de leurs questionnements ou de leurs inquiétudes. Le rassemblement est important, mais après, que va-t-il se passer ?
Merci à vous, merci Adrien Palluet, en direct de la place de la République à Paris. Bonsoir Vincent Payon.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe du politique, ancien ministre de l'Éducation nationale. Sandra, dont on vient d'écouter le témoignage, dit la grande solitude qui est la sienne, et en tant qu'enseignante et en tant que mère d'une collégienne, il fallait d'abord et avant tout, c'est ce que je voulais vous demander en premier lieu, vivre ce moment de réconfort.
On vient de vivre une tragédie qui est unique dans notre histoire. Et la mort d'une brutalité, d'une sauvagerie de Samuel Paty touche, je pense, tous les Français, tous les citoyens, évidemment plus la communauté enseignante, les professeurs. Et évidemment, c'est d'abord un moment de recueillement, de solidarité, avec une pensée très directe pour un homme qui a perdu la vie, jeune, dans des conditions atroces, avec une famille. Et puis derrière, cette qui est évoqué là, qui est la difficulté à laquelle sont confrontés maintenant beaucoup de personnels des services publics, vous savez, et évidemment aussi les enseignants face à des comportements, des incompréhensions, enfin des difficultés à transmettre ces valeurs de la République, dont la laïcité et la liberté d'expression.
Le 10 octobre dernier, Vincent Peillon, invité des Matins du Samedi que vous étiez, vous avez déclaré « On a pensé que l'on pouvait transformer la République par l'école ». Mais à écouter Sandra à l'instant, qui parle également d'ailleurs d'autocensure, on se dit que l'échec est manifeste.
Non, je ne le crois pas. Je crois que l'école fait bien son travail, dans des conditions difficiles. Mais le problème dont il s'agit là n'est pas un problème qui a lieu qu'à l'école. D'ailleurs, l'école est touchée après d'autres institutions et dans un contexte général français, mais international, d'une extrême brutalité. On a parlé, je crois, malheureusement, de guerre des civilisations. Et donc, l'école et les enseignants font tout ce qu'ils peuvent, parfois, je dois vous le dire, seuls. Pas seulement vis-à-vis, comme ils le disent là, de leur hiérarchie. On va en reparler très tranquillement, si vous le souhaitez.
Volontiers.
Mais aussi vis-à-vis d'une société qui attise très souvent, hein, les tensions, ou qui méconnaît le travail justement que font les professeurs, comme on a méconnu le travail des infirmières avant le Covid. On ne se mesure pas à quel point les enseignants sont au front précisément de cette transmission des valeurs et font, on a eu récemment une étude sur l'enseignement de la Shoah par exemple, on a mesuré qu'il y avait des progrès considérables dans les 30 dernières années. Contrairement à ce qu'on pense. Quand je suis arrivé au ministère de l'Éducation nationale, j'ai mis en place la charte de la laïcité. Je l'avais lancée avec Robert Badinter et quelques autres personnes. Le directeur général de l'enseignement scolaire, qui était évidemment à mes côtés ce jour-là, me rappelait que ça n'avait intéressé aucun journaliste à ce moment-là. J'ai souhaité qu'on remette en place, vous vous en souvenez peut-être, la morale laïque qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement moral et civique.
Mais monsieur Peillon, bien sûr, vous aviez déclaré qu'il faut être capable d'arracher des élèves à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel. Je voudrais, avant que nous poursuivions, vous faire écouter Lisa, le témoignage de Lisa qui s'est mobilisée avec en main, on en vient à la laïcité, stricto sensu, un exemplaire de l'hebdomadaire Charlie Hebdo avec en une ce dessin de Luz titré « Tout ça pour ça ».
C'est un exemplaire que j'ai acheté pendant les procès, où c'est écrit « Tout ça pour ça » et en fait... Et en fait, je suis retombée dessus hier et je me suis rendu compte que ça illustre encore une fois très bien ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier. Je pensais pas que j'aurais à redescendre dans la rue une seconde fois pour Charlie Hebdo. Ça me rend très triste pour la famille du professeur et pour tous les journalistes, tous les gens qui font leur métier, tous les profs d'histoire géo, tous ces profs tout simplement. Et je pense que cette caricature qui pose visiblement problème, hein, elle devrait être affichée partout, devrait être dans toutes les écoles, qu'on devrait tous les voir pour se rendre compte que ce n'est rien, c'est qu'un dessin, qu'on ne devrait pas mourir pour ça en 2020, ni même en 2015, ni enfin, jamais.
Vincent Peillon, la charte de la laïcité, d'accord, mais l'école est plus que jamais un terrain de lutte politique, de conquête politique.
Il y a toujours eu dans l'histoire, vous le savez peut-être, par exemple à Paris, on a eu la querelle des crucifix qui a été extrêmement violente. Il y a toujours eu dans l'histoire, évidemment, même si on cherche à préserver l'école des violences qui ont lieu à l'extérieur, c'est même notre tradition, c'est la neutralité de l'école. Il y a toujours eu, évidemment, dans l'école, une importation des conflits qui existent à l'extérieur, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux. L'idée même de la laïcité, je vous le rappelle, est quand même d'essayer de préserver précisément l'école et l'État, avec l'idée de la neutralité, de ces conflits, et de donner aux élèves et de donner aux citoyens la possibilité de forger leur jugement. Donc voilà, nous sommes dans un contexte qui est totalement différent. Non seulement il y a beaucoup de parents d'élèves, vous le voyez, qui contestent, ça a souvent été le cas, il y en a sans doute plus, mais nous avons à l'extérieur de la société, l'assassin n'était pas un membre de l'école, n'était pas un élève, nous avons un certain nombre de gens, c'est l'islamisme radical, c'est l'islamisme politique, qui conteste directement nos valeurs et qui sont capables de passage à l'acte, qui vont jusqu'à l'assassinat dans des conditions absolument abominables. Donc je crois que nous sommes dans le temps de l'émotion, nous sommes dans le temps de la solidarité, nous sommes dans le temps de l'union, car il faut être très unis vis-à-vis de l'obscurantisme, vis-à-vis de la violence, vis-à-vis de ces personnes qui veulent fragiliser nos valeurs. Et puis après, il y aura un temps, il doit y avoir un temps, mais il n'est pas nouveau. Je relisais que nous avons été reçus, tous les anciens ministres de l'Éducation nationale, en 2015 par Najat Vallaud-Belkacem, après les attentats, pour que nous puissions justement trouver des réponses communes et montrer que ce ne sont pas des actions politiciennes des uns contre les autres, mais qu'il y a une continuité de nos valeurs. Et donc il y aura un temps qui a été évoqué par l'actuel ministre, qui a été évoqué par le Premier ministre, qui a été évoqué par le Président de la République, qui est aussi des comment nous devons améliorer les réponses, bien sûr éducatives, mais aussi, il faut bien le dire dans cette affaire, vous le voyez bien, le rôle des réseaux sociaux, la question de l'anticipation policière, du renseignement, toutes ces questions doivent être sur la table et bien, nous devons nous défendre le mieux possible.
Eh bien, Monsieur Payon, justement, Claude Moniquet, journaliste spécialisé dans les questions de sécurité, il s'exprime là sur la capacité de nuisance des réseaux sociaux tels qu'exploités par les ennemis de la République.
C'est très très difficile de savoir qu'un jeune homme de 18 ans s'est radicalisé, peut-être dans le secret de sa chambre, peut-être au contact de deux ou trois personnes, mais dans un milieu qui n'est pas pénétrable. On n'est pas en face d'une organisation dans laquelle on peut infiltrer des agents, ce qui est déjà très difficile dans les milieux djihadistes. On est en face de petites cellules informelles, de petits groupes informels, et là effectivement, je vois assez mal comment on peut s'y prendre, sauf peut-être par une surveillance accrue des réseaux sociaux qui permettrait de distinguer sur les réseaux sociaux, sur les fils de ces personnes, mais encore faut-il les connaître en amont, de distinguer des moments de rupture, des moments où on voit une radicalisation du discours, ou au contraire quelqu'un qui a eu un discours radicalisé, qui disparaît tout d'un coup. Ça peut être le signe d'un futur passage à l'acte, mais je me mets au bien conditionnel, ça peut l'être, ça n'est pas une certitude.
Vincent Payon, comment lutter? De quels outils sommes-nous capables de faire usage pour lutter contre cette grande difficulté que M. Moniquet vient de décrire?
Sur cette question précise, c'est vraiment une affaire de spécialistes. Moi, je suis comme les uns et les autres. Je regarde, je vois qu'il y a eu visiblement plusieurs tweets. Je vois que des gens avaient signalé déjà, et donc les propos de ce monsieur qui est passé à l'acte. Alors peut-être il y en a tellement qu'on ne peut pas les suivre tous. Mais là, nous avons une difficulté majeure qui n'est pas, vous en conviendrez, une difficulté d'abord de l'école.
Mais après, il y a si, parce qu'elle pourrait nommer, Monsieur Payon, elle pourrait aider à nommer et justement ne pas à dénommer, nommer correctement et lutter contre ces dogmatismes qui sont autant d'essence, de carburant pour justement s'immiscer et se glisser dans les réseaux sociaux. Elle a un rôle majeur, semblerait-il, non?
Mais c'est ce qu'elle fait. Ben, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas à chaque fois que je ne vois pas en quoi l'école ne le fait pas. L'enseignement moral et civique.
Quand elle ne peut plus le faire.
Vous avez bien vu que ce professeur, justement, le faisait. C'est un enseignement récent. Nous avons créé en 2012, qui a été relancé en 2015. Et l'actuel ministre l'a poursuivi et mis en place les équipes qui sont d'ailleurs intervenues dans cette affaire. Donc il ne faudrait pas faire le procès de l'école au moment où l'école vient de montrer au contraire qu'elle est courageuse et que les professeurs font leur travail. Là, ce serait une très grande confusion d'esprit. Les professeurs aujourd'hui font leur travail. Et ce qu'ils demandent, c'est ce que j'ai entendu cet après-midi, c'est ce que je sais évidemment depuis des années, c'est précisément qu'on ne vienne pas dire l'école doit résoudre tous les problèmes de la société ou les profs ne font pas leur travail. Ils font excellemment leur travail, ils sont courageux, ils enseignent les valeurs de la République, ils enseignent la laïcité, ils la respectent, et vous voyez d'ailleurs que malheureusement, ça peut provoquer ce que ça a provoqué. Mais ils l'ont dit aussi aujourd'hui, nous continuerons de le faire. Parmi les questions qui se posent...
D'un dernier mot, s'il vous plaît, oui.
Oui, je vous en prie.
Non, je vous en prie, d'un dernier mot, parmi les questions qui se posent, disiez-vous.
Oui. Non, parmi les questions qui se posent et qui m'ont posé difficulté, je trouve qu'il y a eu des progrès par les ministres qui m'ont succédé. Je l'ai vu d'ailleurs dans cette affaire. Au moment où j'ai voulu mettre en place des modules, nous avons recréé la formation des enseignants, vous savez, qui avait été détruite sous Nicolas Sarkozy. Et nous avons souhaité introduire l'enseignement pour les professeurs, hein, précisément comment on enseigne la laïcité. Et nous avions un problème majeur pour recruter des gens formés. Depuis quelques années, on forme les enseignants et donc les formateurs aussi, hein, puisque pour former les enseignants, il faut former les formateurs. Et tout ça s'est mis en place et s'est développé avec ces équipes d'ailleurs qui sont intervenues là. Maintenant, ce n'est pas parce que les enseignants font leur travail dans une société qui est traversée par des violences considérables, ils le font, on le voit, avec courage, jusqu'à justement provoquer cet incident, qu'il faut renoncer ou faire un pas en arrière, il faut accélérer, accentuer.
Merci.
Et ce problème n'est pas simplement un problème de l'école, je le redis. La société ne peut pas non plus considérer que l'école va résoudre tous ses problèmes. Elle fait bien son travail.
Merci à vous. Merci Vincent Payon d'avoir accepté notre invitation. J'ajoute que Emmanuel Macron réunit en ce moment même un conseil restreint de défense et de sécurité nationale en présence du Premier ministre et de 8 ministres et du procureur de la République antiterroriste. Un an après la fuite précipitée d'Evo Morales pour des soupçons de fraude électorale, la Bolivie aux urnes ce dimanche. La Bolivie, pays divisé, qui pourrait offrir la victoire au parti du président déchu, Olivier Pujade.
Apparemment, la gestion par intérim de la sénatrice libérale et conservatrice Jeanine Agnès n'a pas servi de tremplin à la droite bolivienne. En 12 mois de transition, son gouvernement n'aura fait que répéter les erreurs du passé, estime l'universitaire Christine Delfour, spécialiste de la Bolivie.
On est revenu dans des gouvernements avec les travers que l'on connaissait jadis, encore plus de corruption, d'accaparement du pouvoir, des intermédiaires qui participent sans appel d'offres à des achats à l'étranger et qui reçoivent des pots de vin, etc., etc.
Ce nouveau scrutin pourrait donc offrir une nouvelle vie aux masses, longtemps dirigées par Evo Morales. Le mouvement pour le socialisme a l'opportunité aujourd'hui d'émerger comme une véritable force politique démocratique.
Au sein même du MAS, rappelez-vous que l'année dernière, il y avait énormément de divisions entre ces mouvements sociaux. Il y avait une espèce de recentrage du discours du MAS vers le centre et moins indianiste. Si vous voulez, Evo était assez clivant là-dedans.
Après avoir trouvé refuge au Mexique, c'est depuis l'Argentine qu'Evo Morales a tenté de diriger la campagne ces derniers mois, visiblement sans succès. Son ancien ministre de l'économie, Luis Arce, en tête des sondages, semble aujourd'hui déterminé à mettre en œuvre seul la seconde étape du processus de changement initié en 2005 par Evo Morales.
Quelques mots de météo pour refermer cette édition. Conditions anticycloniques demain, une journée calme et globalement bien ensoleillée. Ce journal a été préparé avec Caroline Benetto.